Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone de l'été, complément de la librairie francophone estivale. Reportage, livre de poche pour l'été, souvenirs de l'émission, grand entretien et séquences créoles sont au programme de cette édition. Aujourd'hui, nous irons en reportage au Palais Royal à Paris avec Sandrine Bonner et un invité surprise. Vous entendrez l'écrivaine italienne Simonetta Greggio pour un livre de poche à lire cet été. Jacques Higelin sera dans notre séquence souvenirs et nous parlerons des excréments des animaux avec l'humoriste et scientifique Boukhar Diouf, canadien d'origine sénégalaise. Chaque semaine, nous soutenons les librairies indépendantes. Nous serons donc aussi en ligne avec un libraire français pour son coup de cœur estival et une anecdote personnelle. Aujourd'hui, nous irons à Aix-en-Provence. Mais avant, voici une balade poétique avec Sandrine Bonner, qui est en ce moment à l'affiche au cinéma dans le film Voir le jour. Elle a aussi été cette année la marraine du Printemps des poètes.
La librairie francophone estivale. Emmanuel Kérad.
Bon, voilà, dans les jardins du Palais Royal, sous les arcades en quelque sorte. Bonjour Sandrine Bonner.
Bonjour.
On vous a demandé de choisir un lieu pour parler de poésie, bien sûr, et vous avez choisi cet endroit-là. Pourquoi, Sandrine?
D'abord, les arcades sont très belles, visuellement. Vous voyez, là, j'ai par exemple envie de faire un plan. Je ferai un plan, par exemple, pour mon documentaire. Je dis ça parce qu'il est à côté de moi.
Ouais, on va en parler, il y a quelqu'un avec nous, il y a un invité surprise.
Voilà, il y a un invité surprise et je le vois bien, là, vous voyez, en longue focale, le voir comme ça avancer vers nous, ou peut-être de dos, avec son chapeau et son magnifique manteau caban, et peut-être avec sa trompette à la main. Ça peut être assez beau comme ça, en travelling latéral, avec les grilles. On verrait Eric Truffaz marcher.
Oui, voilà, vous avez dit son
nom. Voilà, j'ai dit son nom. Voilà.
Il regarde les magasins parce qu'il y a des boutiques de luxe autour de nous aussi. Bonjour Eric Truffaz.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes tous les deux associés au Printemps des Poètes. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la poésie, Eric?
Écoutez, la poésie pour moi est très importante parce que ça représente une façon de vivre. Essayer de voir la vie en poésie, c'est essayer d'appréhender la vie d'une manière plus ample, avec plus d'amplitude. Et alors, pour être plus concret, il y a beaucoup de poètes qui me passionnent, de René Char à Desnos à Bastard.
Oui, Joël Bastard. On va lire d'ailleurs un poème avec vous, Sandrine, si vous voulez bien. On a son livre là sur nous. Vous aimez cela aussi, hein, vous, la poésie, Sandrine Bonner? Vous endormir avec, vous réveiller avec, ça accompagne votre quotidien?
Celle-là, en tout cas, beaucoup accompagnée, ça le réaccompagne à nouveau, puisque je me replonge dans des lectures qui m'ont bercée quand j'avais 20 ans, parce que j'ai découvert la poésie à l'âge de 20 ans. Je lisais d'ailleurs beaucoup René Char, et voilà, et je m'y replonge, et c'est vrai que la poésie est un moment sacré, serein aussi. Je trouve qu'on lit pas de la poésie n'importe comment et n'importe où. La poésie, pour moi, je la mets dans un écrin.
Bon, on va entrer dans les jardins. Tenez, il y a un petit portail, je vous laisse y aller, Eric Truffaz et Sandrine Bonner. Pour cet entretien dans la librairie francophone, la poésie c'est presque religieux, Eric. Il y a un côté méditation, non? Vous ne trouvez pas?
Ce qui se passe dans la poésie, c'est que ça met en valeur la spiritualité qu'on a en nous. C'est-à-dire que c'est, moi, mon rapport à la spiritualité, c'est quelque chose qui donne plus d'ampleur au monde, qui l'augmente. Donc, effectivement, moi, je lis chaque matin un peu de poésie pour avoir une phrase qui va carrément conditionner mon début de matinée et me donner une trouvaille, un mot, une couleur. Oui, c'est un rapport à la... Mais bon, l'art est un rapport à la bonne spiritualité.
Bon, il y a un bassin. Tiens, approchons-nous du bassin.
C'est propice à la lecture, ici, ou au jeu d'échecs. J'aime bien cet endroit aussi, parce que j'y ai vu des gens jouer aux échecs. Et ça me touche. Ils me regardent parce qu'ils se moquent de moi. Figurez-vous que j'ai cassé un énorme fantasme chez Eric, c'est-à-dire qu'il a vu ce merveilleux film de Caroline Botaro qui s'appelle Joueuse, où je suis censée être très forte. dans les échecs, les jeux d'échecs. Donc il pensait que je savais très très bien jouer, et hélas, pas du tout.
Vous n'avez même pas appris pour le film?
Si, j'ai appris, même, je connais les règles, mais je suis nulle.
Et Electric est super bon.
Non, je suis pas très bon, mais je pensais avoir à faire une forte adversaire. Et finalement,
le mythe s'effondre.
Carrément.
Parce que moi, quand je vois le film, je crois, bien sûr, je crois que c'est vrai.
Mais oui, mais c'est une escroquerie, les comédiennes et les actrices, c'est comme ça. Elles trichent tout le temps. Bon, on va lire justement, puisque c'est propice à la lecture, Sandrine Bonner. On vous a choisi un poème de Joël Bastard. Peut-être que vous pouvez le lire avec Eric Truffaz. Vous pouvez vous partager les mots.
Ah, non, moi je laisse Sandrine lire parce que moi je lis très mal. Moi ce que je peux faire, c'est prendre ma trompette et l'accompagner.
Allez si vous voulez.
Ah ouais, génial.
Allez. C'est improvisé, c'est à Paris, dans les jardins du Palais Royal.
Alors, je voulais vous dire que lui, il joue bien aux échecs, mais c'est vrai qu'il lit pas très bien.
Vous êtes complémentaires, en fait.
On va dire
ça. Apparemment, on est un peu complémentaires.
Alors du coup, on va attirer du monde avec la trompette, parce qu'il y a quelques touristes autour de nous qui prennent des photos des jardins. Ils vont se tourner vers nous, à mon avis, dans peu de temps.
Ah bah c'est bien, on fait un spectacle. Quelqu'un frappe à la porte. C'est un livre. Baissons les yeux. Le monde est déversé. Encre noire sur le papier. Personne là ne s'essuie les pieds. Personne dans le vestibule, la cuisine ou la chambre. Un livre traverse cependant l'habitat d'assurance, page ouverte. Des paysages, des caresses, ses feuilles sous les lampes d'automne. Et le soleil arrive, voilà, il nous joue de la trompette.
C'est vrai. Et le vent souffle, on a le bruit du vent, vous l'avez entendu derrière nous, avec ce vent qui souffle et ces gouttes de pluie aussi qui tombent, et le soleil qui surgit sous la trompette d'Éric Truffaz. Merci beaucoup.
On est bien dans la poésie là.
Avec un son très particulier du coup, vous l'avez entendu, le thème du Printemps des Poètes, c'est le courage. Il vous en a fallu du courage à tous les deux dans vos vies personnelles, je suppose. Qu'est-ce que ça représente, le courage, pour vous aujourd'hui, Sandrine et Éric?
Le courage, c'est déjà de traverser l'existence humaine. C'est déjà du courage dans le sens où la vie est faite de haut et de bas. Donc les bas, eh bien, il faut les traverser, donc c'est une forme de courage. Courageux de, je sais pas, de
la liberté, de choisir la liberté, de choisir la joie, comme votre maman, vous l'avez souvent confié cela. Elle était en couple avec votre père et puis elle vivait sa vie aussi à côté. Il le savait et il y avait cette forme de courage de résister tous les deux à l'amour tout en préservant une part de vie intime.
Oui, le courage de rester libre, ça c'est courageux. De pas être dans des cases, enfin vous voyez, des codes qui vous encrassent. Il y a des codes de la vie qui sont beaux et qu'il faut respecter, et puis d'autres qu'il faut faire valser d'un coup de pied ou d'un coup de geste ou d'un coup de non.
C'est pas facile, ça?
Non, c'est pas facile, mais je pense que c'est plus dur de subir que de balayer tout un empoisonnement qui vous pollue.
Éric, il est très songeur, Éric Truffaz.
Moi, j'ai pas de chance parce que je dois répondre après elle, donc je dois trouver d'autres réponses et éventuellement
c'est vrai que là,
de
je vous
parler
favorise pas.
Aussi bien. Donc j'ai déjà pas le même timbre de voix, donc je suis un peu discrédité, donc je dois trouver des mots qui soient peut-être supérieurs.
Vas-y, on t'écoute.
On t'écoute, donc, c'est ce que j'allais dire.
Je réfléchissais à tout ça. Et
tu gagnes du temps en fait.
Non, je ne fais pas la politique, c'est les politiciens qui gagnent du temps. Pour moi, le courage, ça me relie à l'adolescence, et pour moi, le courage, c'est de choisir sa vie, et suivre son cœur, et être honnête avec soi-même. Et ce n'est pas toujours facile, suivant ce qu'on décide de faire, et c'est ça qui est important. Parce que finalement, je pense, peut-être heureusement, qu'il y a beaucoup de gens qui abdiquent et qui font des métiers qui ne leur plaisent pas. Comme ça, on peut rouler en voiture, acheter des yaourts. Mais pour moi, c'était ça dès l'adolescence, c'est faire un choix et tracer ma route au travers de ce choix.
C'est ce qu'a fait Sandrine Bonner avec le cinéma, d'ailleurs. Vous avez eu de la chance quelque part?
Ouais, j'ai eu de la chance. Ouais.
Avec Piala, avec Varda, c'est une chance? Enfin, je veux dire, c'est une chance, évidemment que c'est une chance, mais ça a été un hasard, ça a été un concours de circonstances sous l'étoile de la chance?
C'est à la fois un pur hasard, mais je crois que oui, j'ai une bonne étoile au-dessus de moi. J'ai quand même le sentiment, et c'est marrant parce que j'en parlais avec Joël Bastard hier soir, il disait la même chose pour lui, et je pense que la bonne étoile, on la provoque, on la fait surgir. Oui, ou en tout cas, si elle arrive, il faut continuer à faire en sorte qu'elle nous accompagne.
Il faut la capter.
Il faut la capter, ouais. Il faut la garder précieusement, mais la chance, il faut savoir la préserver. Ça, c'est important.
Moi, ce que je pense, c'est que Sandrine a un timbre de voix extraordinaire, donc elle a une voix lactée.
Ça, c'est le musicien qui parle. On a eu la cinéaste tout à l'heure, maintenant le musicien, vous êtes complètement obsédé par vos boulots, en fait.
La bonne étoile était là.
Bon, on va se mettre sous les arcades à nouveau pour conclure cet entretien auquel vous assistez en ce moment. Dans le quotidien, Sandrine Bonner, qu'est-ce que vous aimez? Je sais que vous aimez ça, le quotidien, vous.
Bah, c'est pareil, j'aime le quotidien qui ne plombe pas dans le sens qui ne vous mange pas l'énergie. J'aime le quotidien qui amène de la belle énergie. Je suis assez, assez terrienne. Je crois que ça, c'est des choses que j'ai gardées de mon père. J'aime les choses simples. J'aime cuisiner, entretenir ma maison,
Mais alors ça aide de faire du cinéma, parce que vous pouvez vous échapper du quotidien.
Alors c'est vrai, si je devais faire ça tous les jours, peut-être que ça me plairait moins. Ouais, j'aime ce qui nous équilibre, les repères dont on a besoin, voilà.
Revenons au courage pour terminer. Marguerite Duras, vous avez adapté deux textes de Marguerite Duras, L'homme atlantique et L'homme assis dans le couloir. L'homme atlantique, c'est un long texte, une longue lettre adressée à Yann Andrea. Et puis L'homme assis dans le couloir, c'est une passion sexuelle, la libido féminine. Ce sont des textes très crus. C'est assez courageux de la part de Duras. Et ça a été d'ailleurs publié avant L'amant. C'est des textes qui ont été écrits avant L'amant, qui annonçaient L'amant.
Et quelle est votre question ?
Il n'y en a pas. Il y a des moments comme ça, je n'ai pas de questions. J'ai tout dit, c'est ça ?
Non,
Pourquoi l'avez-vous adapté, ce texte-là, qui est très cru et qui a un côté quand même assez sexuel ?
Ce qui s'est passé, c'est qu'on a choisi un premier texte qui était c'est L'homme atlantique, qui est un petit peu atmosphérique, très atmosphérique.
Très, ouais.
Et il fallait un texte plus incarné. Et je me suis dit que ça allait dynamiser notre spectacle, et c'était le cas. Voilà.
Sandrine, sur des textes que vous avez des facilités à jouer, à interpréter ?
Oh, Duras. Alors, curieusement, le deuxième texte me paraît plus facile. Il est plus âpre, plus. Mais peut-être parce qu'il est plus viscéral. Du coup, ça me parle plus.
C'est plus cru, hein ?
Effectivement, c'est plus cru. Ouais, ça me parle plus.
Voilà.
Je plaisante. Il y a de l'émotion. Puis j'aime bien ce côté audacieux et un peu frondeur.
De Duras.
Et ça me plaît. Et du coup, je me sens à l'aise.
Merci beaucoup, Sandrine Bonner.
Merci à vous.
Merci, Eric Truffaz. Il est vers les boutiques, Eric.
Merci beaucoup. C'était un grand plaisir.
Et Sandrine Bonner est au cinéma en ce moment dans le film Voir le jour. Elle joue le rôle d'une auxiliaire engagée dans une maternité de Marseille. Et si on partait en week-end ou en vacances avec un livre de poche dans le sac à dos? En voici un signé Simonetta Grédio. Et bonjour Simonetta Grédio.
Bonjour.
Vous êtes une habituée de cette émission depuis 10 ans, quasiment.
Je l'adore, il faut croire que c'est un peu réciproque.
C'est réciproque. Vous publiez Black Messi aux éditions Stock, c'est sans doute le roman le plus complexe que vous avez écrit. Évidemment, l'action se situe en Italie, votre pays d'origine, que vous aimez analyser, critiquer, valoriser aussi. Nous sommes à Florence et vous évoquez le monstre de Florence qui aurait tué 7 couples entre 1968 et 1985.
C'était le premier tueur en série européen, en fait. Et à l'époque, on était tellement nuls qu'on savait, alors l'ADN c'était à venir, mais on était nuls même pour le stab ou pour les empreintes ou tout ça, mais à tel point que même des chaussures, vous savez, même Sherlock Holmes était en avance sur nous.
Oui, parce que la justice italienne n'a jamais arrêté le coupable.
Non, non, ils ont arrêté un vieux type absolument monstrueux parce qu'il avait un inceste avec ses enfants, enfin il était vraiment, c'était un type affreux, mais c'était probablement pas lui.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de base de données nationale d'ADN en Italie, en tout cas à l'époque il n'y avait pas.
Et encore maintenant d'ailleurs.
Ah, encore maintenant.
Encore maintenant il n'y a pas de banque de données parce qu'il y a la legge della privacy, donc la privacy italienne qui empêche la mise en route de cette banque d'empreintes génétiques. Ouais. Je ne sais pas comment ils se débrouillent.
Et alors cette histoire de tueur en série, apparemment elle aurait inspiré le silence des agneaux et le terrible Hannibal Lecter, c'est vrai ça?
C'est plutôt le. En fait, il avait été. Thomas Harris avait été sur le... au premier procès et il avait écrit l'un de ses premiers livres, je crois son tout premier, qui était Black Sunday.
Mm-hmm. Ouais. Et vous êtes mis un peu dans l'ambiance, dans la peau hein, de. En de fait, l'auteur du Silence des agneaux, un peu dans la peau des enquêteurs. C'est un mélange de tout ça, votre roman.
Mais j'aime infiniment les romans noirs. Ouais. J'aime les polars, j'aime les thrillers.
Là, c'est pire que ça encore. Hein.
C'est un vrai noir. C'est un noir, vous savez, soulage, plus noir que noir.
Ouais, un noir soulage, c'est vrai. À un moment, l'un de vos personnages dit qu'en Italie, il y a 28 disparitions par jour. Depuis 1974, plus de 25 000 personnes n'ont pas été retrouvées.
Mais vous savez, depuis 2 ans, il y a 10 000 enfants qui ont disparu.
10 000 ?
Oui, en Europe. C'est pas qu'en Italie. Mais beaucoup en Italie aussi. Et il y a en ce moment une traite de mineurs qui est absolument fantastique. Ça. Et je pense que là derrière, il doit y avoir des choses vraiment
terribles,
dégueulasses.
Ouais. Et on dit rien en fait. On en parle très peu.
Mais on en parle très peu parce que je pense qu'il y a une sorte de mur, vous savez, de mur de verre, comme si ça arrivait aux autres. Mais les autres, c'est nous.
Dans votre roman, Simonetta Greggio, une série de meurtres interroge la police locale. Le monstre de Florence est-il revenu? En tout cas, le mode opératoire, comme on dit, est précis. Des couples assassinés pendant l'acte sexuel, une fleur dans la bouche de la fille. C'est un cérémonial avant d'être un assassinat.
C'est souvent des cérémoniaux chez les tueurs en série. Il faut vraiment que tout soit bien précis et c'est ça qui les retient, c'est le rituel. Mmh. Parce que, évidemment, j'ai un peu étudié leur modus operandi, c'est absolument fantastique comme ils sont, c'est des prêtres.
Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est presque religieux.
Oui, oui, tout à fait. Ouais.
Alors, on peut pas raconter grand-chose, hein, vous l'avez compris, sans révéler l'intrigue. Mais c'est vrai que votre livre est construit comme un polar. Il y a des personnages étranges. Ils sont victimes de traumatismes, vos personnages, quasiment tous. C'est souvent un rapport compliqué à la mère,
un rapport au père,
à la perte d'un être cher qui fait basculer les hommes.
C'est souvent ce qui se passe dans la vie. On n'arrive pas tout vierge. Hein. Et puis, quand on avance, sinon les psys ne seraient pas là. Enfin, ils feraient faillite tout de suite.
De là à être tueur en série avant d'aller voir le psy.
En série, mais le reste n'est pas toujours facile.
Et ce sont des hommes, hein, pour vous.
Ce sont des hommes. C'est pas pour moi. C'est vraiment.
Enfin, en général, ce sont des hommes.
C'est une statistique. Les femmes ont un modus operandi dans la mort qui est différent. C'est souvent ce qu'on appelle les anges de la mort. C'est tellement doux, sauf que ça donne la mort quand même. Mais c'est pas la même chose. On est beaucoup plus sympa.
Beaucoup plus sympa. Oui.
Il faut croire.
Il y en avait une qui s'appelait Hélène Jégado, tueuse bretonne du 19e siècle, qui avait fait l'objet d'un livre Fleur de tonnerre de Jean Tolet. Je ne sais pas si vous avez lu cela. Elle empoisonnait tout le monde sur son passage.
Voilà,
mais enfants, des femmes, des adultes, des vieillards, peu importe.
Mais voilà, alors le poison est plus une arme de femme.
Ouais.
Alors que les hommes sont beaucoup plus sur le poignard. Je ne vais pas faire une psychanalyse de bistrot, mais va savoir.
Vous égratignez un peu Matteo Renzi au passage, comme ça, vers la page 200 et quelques. Natif de Florence, maire de Florence, le jeune Nino qui est perdu dans cette enquête, un jeune policier. Comme Matteo Renzi, vous dites, le plus jeune dirigeant des pays occidentaux. Alors la dernière fois, vous démolissiez Berlusconi dans Les Nouveaux Monstres, hein, c'est ça?
C'est exact.
Voilà, là c'est Matteo Renzi. C'est...
Mais parce que le pouvoir est toujours le même. Le pouvoir était en place avec Berlusconi. La première chose que Matteo Renzi a fait lorsqu'il est arrivé en tant que Premier ministre, il a été voir Berlusconi pour faire un pacte, ce qu'on a appelé les pactes nazaréens. Et à partir de là, il a repris les rênes de la chose. Alors, la cosmétique est différente. Il aura un peu plus de violet, un peu moins de rouge. Mais c'est exactement la même chose.
Ah, vous pensez que c'est la même chose,
oui. Fondamentalement, oui. Sous des couleurs différentes, avec un discours différent, c'est la même chose.
Merci beaucoup, Simonetta Greggio.
Merci à vous.
Merci pour cet entretien. Black Messi, attention, livre complexe. Si vous aimez être confronté à un roman dans lequel vous devez jouer un rôle d'enquêteur, on l'a dit, eh bien, ce livre est fait pour vous. et le roman de Simonetta Greggio, Black Messi, est paru en poche au Livre de Poche. À suivre le souvenir de la semaine avec le grand Jacques Higelin, ami regretté de cette émission. Ce sera après un titre acoustique joué dans le grand studio de la librairie francophone. Voici son fils Arthur H sur France Inter.
Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Je te déporte, je te détache, tu me grand large, tu me dérives. Assassin de la nuit, assassin de la nuit. Je t'espionne, tu me soupçonnes, je t'alarme, tu me cambrioles. Je te vise, tu me cibles, je me rends, tu me descends. Assassin de la nuit, assassin de la nuit, assassin de la nuit, oh, 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 oh. Assassin de la nuit. Je te hais, tu me noies, je te coule et tu me bois, je te sphinx. Tu me félines, je te démon, tu me divines. Oh, tu m'as encore, tu me tues. Assassin de la nuit, assassin de la nuit, assassin de la nuit. Assassin de la nuit, oh, oh, oh. Assassin de la nuit. Tu me déchires, tu me répares, tu m'opères à cœur ouvert. Je te déporte, je te détache, tu me grand large, tu me dérives. Assassin de la nuit.
C'était Arthur H dans notre studio avec Assassin de la nuit. Pour notre séquence souvenir, on écoute le grand Jacques Higelin qui nous manque tant et qui est venu plusieurs fois à notre micro, toujours dans cette folie généreuse et bienveillante. Voici sa dernière interview pour la librairie francophone.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Canada,
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Dans Je vis pas ma vie, je la rêve, réalisé avec Valérie Lehoux, vous racontez des fragments de vie. On est vraiment captivé par vos confidences. Il y a dans ce livre aussi beaucoup de sensibilité, d'intensité, de fragilité. Vous étiez un enfant solitaire, déjà, vous le racontez. C'est votre frère Paul qui vous protégeait. Et puis, vous avez connu la guerre, jeune enfant. Votre premier souvenir, c'est un bombardement.
Ouais.
C'est le premier son que vous avez...
C'est le premier sifflement que retenu. J'ai entendu. Mmh. Tombé du ciel, mais à travers les nuages, à travers les orages, quoi. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis très dérangé par cet appel à la guerre. J'entends des appels à la guerre de partout, quoi. Et je suis pas d'accord, parce que je me rappelle très bien de la guerre et des retombées et des moments où ça où ça dégomme complètement, quoi, où ça déconne complètement, quoi. Et c'est vraiment dangereux quand on est parti sur la voie de la violence pour arrêter quoi que ce soit. C'est horrible.
Et puis ça n'en finit pas.
Et ça n'en
c'est
finit
ça le
pas,
problème.
Quoi.
Alors c'est vrai, vous, Jacques Higelin, vous avez toujours mené une guerre culturelle, c'est-à-dire vous êtes un militant culturel, vous avez toujours été anti-militariste.
Non, je suis pas un guerrier, moi.
Oui, bon, un combattant.
Je suis pas un guerrier, non.
Jamais, vous n'avez jamais été un guerrier.
Non.
Comment vous définissez alors?
Un poète, un amoureux de la vie.
Et un poète, ce n'est pas un combattant?
C'est pas ça. C'est quelqu'un qui vous réconcilie avec la vie. Et qui vous réconcilie avec l'amour. Voilà, c'est tout. L'amour, c'est belge. Moi, je suis belge.
C'est vrai. Oui,
mais,
votre maman était
mais
belge.
Mais pour l'instant, c'est pas... Oui, c'est pas...
Mais vous aimez raconter des histoires. Alors, c'est très drôle parce que, avec Valérie Lou, vous racontez cela, que vous êtes dans la cour d'école et vous êtes avec les plus petits. Vous leur racontez des histoires. Au lieu d'aller taper dans un ballon, vous leur racontez des histoires. Et la directrice qui vous surveille de sa fenêtre, elle va bientôt partir à la retraite. Alors, elle convoque vos parents et elle leur dit surtout, Jacques, il faut le laisser devenir artiste.
Ouais.
C'est ça, sa vocation.
Ouais. Ben oui, c'était une femme qui aimait les artistes, la directrice. Et puis après... Elle est partie très vite, parce qu'elle était en... Comment on appelle ça en...
Elle allait aller à la retraite.
À la retraite, oui, à la retraite. J'arrive pas à coller ce mot-là sur cette femme qui était tout sauf prendre la retraite.
Madeleine Cavalier.
Madeleine Cavalier, oui.
Ouais. Ouais, alors ça part de là, et c'est vrai que les hasards de la vie, finalement, ils vous ont mené à certains endroits, Jacques Higelin. Vous n'y croyez pas, d'ailleurs, au hasard de la vie. Vous écrivez « Les choses arrivent à qui est disponible pour les vivre, les entendre ou les voir. C'est formidable d'être à la disposition de son destin. » Et effectivement, votre parcours est semé de clés, de rencontres déterminantes. Vous avez cette capacité, comme ça, à saisir l'opportunité, un peu malgré vous, d'ailleurs. Vous êtes conscient de ça? Parce que dans le livre, on a vraiment l'impression que ça arrive et que vous
mais
subissez le positif.
Parce que je laisse arriver.
Oui.
Parce que je suis passionné par ces rencontres. Je trouve que il n'y a rien qui est plus formidable que les rencontres dans l'histoire humaine.
Ouais.
Parce que j'ai voyagé aussi à Madagascar et j'étais ravi de... qu'on m'ait fait rencontrer tout de suite des artistes.
C'est ça qui vous a fait tenir toute votre vie, Jacques Higelin? C'est ça qui a fait que vous vous êtes toujours accroché, la rencontre avec l'autre?
Oui. Bah ouais.
Ouais.
Mais oui. Sauf au football où j'étais pas doué.
Ouais, vous étiez nul au foot.
Ouais. Nul au foot. Mais j'avais envie de participer au truc.
Pour être dans le groupe.
Oui, pour être dans le groupe.
Toujours la rencontre, du coup.
Oui. Sur les rencontres. Oui. Ouais.
Vous auriez pu être un acteur reconnu, Jacques Higelin. On vous a donné votre chance à plusieurs reprises. Vous avez tourné des films populaires. Elle court la banlieue, par exemple. Mais à chaque fois, on vous force un peu la main. Hein.
Non.
Ah, oh, si.
Ah ben, oui.
Bah, oui.
Ah oui, pour les rencontres, j'ai oublié complètement tout.
Non, vous en faites...
Ça m'intéressait pas vraiment, quoi.
Vous faites un cinéma, sans faire de jeu de mots, hein.
Ouais.
Ah ouais.
Un cinéma?
Mais oui, parce que vous dites à Gérard Pires, par exemple, surtout quand j'ai fini le film, pas de promo, je disparais, tu dis que tu sais pas où je suis.
Oui, c'est ça.
À chaque fois, vous cassez les pieds à tout le monde, comme
et
ça.
Il a donné sa parole.
Oui, c'est vrai.
Il l'a tenu.
Il l'a tenu, oui.
Ouais, c'était formidable.
Mais pourquoi cette résistance avec le cinéma, comme ça?
Parce que il y a toujours un moment où au bout de 2-3 jours de tournage, je m'ennuyais.
Ouais.
C'est-à-dire, je dis, ah, c'est que ça, c'est, et qu'est-ce qui se passe d'autre, tu vois, autour de moi et autour de nous, et j'aimais les rencontres avec les techniciens, avec les, j'étais très bavard et à l'écoute de ce qu'ils me disaient, parce que j'ai toujours pensé que je devais apprendre.
Ah oui.
Et c'est ce qui m'a permis, par exemple, dans le dernier film, que j'ai fait avec
Daniel Auteuil, Japlou.
Daniel Auteuil, oui, Japlou. Et j'ai tout de suite aimé cet homme parce que il m'a regardé en faisant une blague complètement nulle. Et puis, moi, j'ai répondu complètement nul aussi. Et là, on a dit, on est copains.
Ouais, ça commence comme ça.
Oui, ça commence comme
on
ça.
On connaît ça ici.
Ouais, ouais.
On fait ce genre de trucs.
Mais j'aime bien l'équipe du cinéma.
Ouais. Vous aimez la rencontre à un point, Jacques Higelin, que vous êtes capable de vivre une déception amoureuse et de l'assumer. Hein. Un jour, vous rencontrez Irène, c'est un grand amour de votre vie. Vous êtes amoureux fou, vous recevez une lettre de rupture et vous dites « J'ai été profondément heureux, cela vaut bien la peine que j'éprouve aujourd'hui. »
Ben oui.
C'est beau ça.
Ben oui.
Ouais.
Parce que c'est vrai. C'est vrai. Il faut mériter quelque chose de la vie. C'est un cadeau que quelqu'un tombe amoureuse de vous ou amoureux de vous d'ailleurs.
Et donc il faut supporter la peine après.
Ben, il faut...
C'est la règle.
Ouais, mais on ne s'est jamais quitté avec Irène, en fait. On est toujours... Et puis les gens que j'ai vraiment profondément aimés, je les ai pas quittés, quoi.
Ouais, ouais.
Sauf si, à un moment donné, ma mère qui mourait et mon frère qui est mort.
Ouais.
Et ça, c'était... J'ai toujours pas digéré, mais...
Mais ils sont là avec vous quand même, vous le dites.
Ils sont là, vraiment, ouais. vraiment.
Un jour, au cours d'un concert, vous captez le regard d'un enfant, Jacques Higelin, une petite fille qui vous regarde intensément, que l'on vous présente ensuite dans les loges, et qui est complètement muette.
Oui, et elle me regarde, vraiment. Et puis elle était avec trois femmes, sa tante, sa grand-mère et sa mère. Mmh. Je lui ai fait une déclaration d'amour à cette jeune fille, à cet enfant, quoi, à cette qui avait 9 ans.
Ouais.
À un moment donné, ça s'est arrêté le concert parce que je lui ai parlé à elle et je lui ai dit, tu verras, l'amour, ça peut être formidable. Moi, par exemple, je suis amoureux de toi, de ton regard et de ta façon d'être. Et puis, elles m'ont écrit toutes les trois lettres. Et elles m'ont dit, voilà, vous ne savez pas ce que vous faites des fois, mais ce serait important de vous le dire, parce qu'on a emmené cette petite fille avec nous. Et elle ne parlait plus depuis un an. Et
elle s'était faite violer, en fait.
Elle s'était faite violer, oui.
Elle était traumatisée.
Ouais. Et elle dit, ce matin, elle s'est réveillée et elle parlait. Mmh. Et elle chantait. Et c'était vraiment... Je me dis, putain, si c'est ça que ça sert un artiste, c'est vraiment formidable, quoi. Parce que c'est miraculeux, quoi.
Ouais.
Et souvent, je dis ça. Je dis aux gens, c'est miraculeux d'être un artiste.
Alors cette rencontre, la magie de la rencontre, vous racontez cela tout au long du livre. Il y a des voyages, l'Afrique où l'on célèbre la vie, vous adorez l'Afrique. Et puis vous terminez avec l'évocation de vos enfants. Arthur H., Isia, Ken, vous écrivez « On n'élève pas ses enfants, on s'élève avec eux, on avance, on apprend ».
Oui, ben oui.
Vous êtes quel genre de papa, vous?
Non, non, je me vois pas du tout.
Ah oui, non.
J'aime mes enfants et je suis toujours surpris, et mes petits-enfants aussi d'ailleurs. C'est vraiment étrange d'être entouré tout d'un coup, petit à petit, d'enfants que moi je voulais pas forcément être entouré d'enfants, mais parce que j'en avais plein autour de moi tout le temps. Avec des femmes que je rencontrais, voilà mon fils, mon petit, mon grand. Et j'ai toujours été fasciné par les enfants, parce que tu m'as dit un jour que j'en étais un.
Valérie Lehoux.
Ouais.
C'est vrai que c'est un grand gamin. Ouais.
C'est un adolescent. Il a gardé cette espèce de fougue formidable qu'on avait tous à l'adolescence, et il a aussi cette fraîcheur permanente, cette candeur parfois de l'enfant, ouais.
Ouais.
On va rester là-dessus, Jacques Higelin. Je voudrais dédier cet entretien, Jacques, et cette émission à Paul Higelin, votre frère disparu, dont vous parlez souvent avec pudeur dans ce livre. Je l'ai bien connu, il a été mon ami à Marseille. À la fin des années 90, il avait constitué une bande dont j'étais le plus jeune, le gamin de la bande, quoi. Il m'a beaucoup appris, il m'a beaucoup parlé de vous aussi. J'ai pensé à lui pendant toute la lecture de ce livre. Voilà, ça aussi, c'est une rencontre. Merci, Jacques.
C'est formidable.
«
Et chaque semaine, dans cette librairie francophone de l'été, diffusée le dimanche uniquement sur France Inter, on part à la rencontre des libraires en soutien aux librairies indépendantes françaises. Aujourd'hui, cap sur Aix-en-Provence, dans la librairie Goulard, avec un libraire que vous connaissez déjà. Si vous êtes fidèle de l'émission, bonjour Mathieu Colombe.
Et bonjour Emmanuel.
Comment s'est passé votre été, Mathieu ?
Eh bien, plutôt bien. On a eu beaucoup de beau temps, on a vu beaucoup de monde, on a beaucoup travaillé. Je suis très content, tout va bien.
C'est vrai hein, que les clients étaient au rendez-vous de toutes les librairies de France et ça fait plaisir à voir et à entendre. Quel livre avez-vous conseillé alors pour l'été dans votre librairie pour aller à la plage ou bien simplement partir en week-end ? Quel est le livre que vous avez envie de vendre en ce moment ?
Eh bien, j'avoue que vu qu'il fait très chaud, j'avais pensé à quelque chose qui pourrait un peu refroidir les ardeurs du public. Donc, je pensais à N'est d'aucune femme de Franck Bouys, qui est un roman, bon, certes, absolument magnifique, mais particulièrement noir, avec, très bien desservi par le style magnifique de Franck Bouys. Il est très, très bien construit. On a vraiment rendez-vous avec le cœur noir des hommes dans ce roman. Donc, beaucoup d'émotions, quelque chose de magnifique, une véritable pépite, mais pour le coup, ça va vraiment vous rafraîchir.
Pourquoi ça rafraîchit ?
Ça donne des frissons, on va dire.
C'est un livre d'épouvante ou quoi ?
Non, pas du tout, mais le destin du personnage principal est complètement tragique et comme dans tous les romans de Franck Bouys, il n'y a absolument pas de lumière, il n'y a aucun espoir et une très belle fin.
C'est bien pour la rentrée ça Mathieu, pas d'espoir.
Oui, ça met en jambes.
Bon, on vous a demandé aussi de réfléchir à une histoire personnelle de libraire, une anecdote drôle ou émouvante qui vous a marqué dans votre carrière Mathieu.
Alors, bon, il y en a une qui est très très drôle, qui me fait beaucoup rire, mais qui est un peu cruelle. Alors, comme vous le savez, souvent donc les auteurs passent en librairie pour vérifier si leurs livres sont bien en place, si leurs dernières sorties sont bien présentées. Et donc, il y a quelques années, un jeune homme rentre dans la librairie et me demande mon avis sur un roman qui venait de sortir. Alors moi-même, j'étais encore assez jeune. Et je venais de finir ce livre qui m'avait passablement énervé. Et donc, j'explique au jeune homme tout le bien que je pense de ce livre, quoi, mal construit, mal écrit. Je termine par, ce type se paye le luxe de parler de mon métier, alors que manifestement, il le connaît même pas. Et donc, je continue. Et j'en rajoute vraiment énormément. Et là, je vois la tête du type en face de moi qui vraiment paraît un peu déconfite, mais sur le coup, je me dis que c'est rien de grave. Et puis, le jeune homme me remercie et part. Et une fois qu'il a tourné les talons, je suis pris quand même d'un affreux doute. Et donc là, je vais vérifier derrière le bouquin qu'il y avait la tête de l'auteur. Et je me suis rendu compte que donc je venais d'expliquer à l'auteur que son bouquin était vraiment excessivement mauvais et qu'il m'avait fortement déplu.
Ah oui, c'est l'auteur qui est venu vérifier, qui vous a testé en fait.
Tout à fait.
Et vous avez dit que son livre était nul.
Il s'est pas présenté. Alors bon, je, ça n'aurait pas changé le fond, mais je n'aurais pas présenté ça de la même manière si j'avais su que c'était lui, quoi.
Le pauvre, vous avez détruit le moral et la carrière d'un écrivain. Bon, merci beaucoup Mathieu Colombe, merci.
Avec grand plaisir.
Je rappelle que vous dirigez la librairie Goulard à Aix-en-Provence sur le cours Mirabeau et on vous retrouvera au cours de la saison dans la librairie francophone dite classique qui fête ses 15 ans cette saison. À bientôt Mathieu, bonne suite d'été à vous alors.
Merci beaucoup.
Dans un instant, l'humoriste et scientifique canado-sénégalais Boukhar Diouf pour un livre qui va vous surprendre et qui va sans doute vous laisser perplexe. Vous aurez des choses à raconter ce soir. Ce sera après le nouveau titre créole de Marie-Josée Ali sur France Inter.
Pour faire la beauté pousser. Gardez si des yeux qu'à faire mal. Rappelons même un peu brûler. Oui, même si on décide, parlez pour un livre déchiré. En vieux corps, qui t'a collé toi pied. Devant la porte, nous a qu'à parler. D'ailleurs, 2000 ans qu'à rouler. Gardez si des yeux ferment mal. Trappez-le, même moi brûlé. Et même si moi décide, parlez comme on lit. Si t'en nous pas qu'à temps. sa yo fè an. E a pou ti moun pou sa yo fè an. E a pou nou tout nou rive la nou rive son tombe. Yes, sa e, se ton nou pa atan.
C'était Marie-Josée Ali avec Setan Opakatan dans la librairie francophone.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Et bonjour Boukhar Diouf.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis nos studios de Montréal, Boukhar, après un essai sur la communication des arbres qui avait fait beaucoup parler de lui dans cette émission. Vous publiez un essai inattendu sur les matières fécales des animaux et des hommes. Les bouses voilà. Et autres résidus de digestion sont parfois très utiles. On doit beaucoup, par exemple, aux excréments du poisson perroquet.
Ben voilà, c'est un livre sans prétention, mais je voulais faire cet exercice de vulgarisation parce que les matières fécales, nous avons vraiment une relation amoureuse avec les matières fécales. On le voit avec les enfants.
Oui.
Quand ils sont tout petits, on leur dit « t'as fait un beau caca », on le dit parfois aux enfants. Mais en vieillissant, on soulève les couches et on manifeste du dédain. Et cette idée du rapport amoureux qu'on a avec le caca m'a amené à parcourir un peu le monde animal pour démystifier la chose.
Oui, alors le poisson perroquet.
Le poisson perroquet en fait partie, effectivement.
Qu'est-ce qu'il fait ?
Donc c'est un poisson qui mange le corail.
Oui.
C'est ce qui mange le corail et qui extrait ce qui est nutritif là-dedans et défèque une partie de ce qui constitue le sable fin de certaines plages sur lesquelles on aime bien se dorer la couenne, voilà. Pour les voyageurs avertis.
C'est vrai que les scientifiques, il y a des scientifiques, c'est très sérieux, hein, qui pensent que 70% du sable des plages des Caraïbes provient des déjections du poisson perroquet. C'est pas rien, quand
mais
même.
Heureusement, oui, c'est vrai, mais heureusement, on s'en rend pas compte quand on a un verre de margarita.
Tout au long du livre, vous parlez du moufa, Boukhar Diouf.
Oui.
Alors dites-nous.
Oui, c'est pour alléger la chose.
Eh ben oui.
Pour alléger la chose, parce qu'on faisait souvent cette blague quand j'étais jeune. Au lieu de dire le caca ou la crotte, on disait le moufa.
Voilà.
Alors ça aide un peu à passer la chose. Pour les mamans qui seraient réfractaires à ce que leurs enfants lisent ce bouquin. Alors,
bon, on apprend
moufa,
plein de choses.
C'est plus poétique.
On apprend plein de choses dans ce livre. On apprend aussi que contrairement aux vaches, les kangourous produisent des gaz qui sont bien tolérés par l'atmosphère. Ce ne sont pas des gaz à effet de serre. Il y a là aussi des études très scientifiques pour voir si les vaches pourraient avoir le fameux enzyme qui leur permettrait de ne pas contribuer à détruire la planète.
Ah ouais, voilà, ça c'est les Australiens. Hein. Les Australiens ont essayé de transplanter de la flore intestinale de kangourous à des vaches parce qu'une partie de leur gaz à effet de serre vient des émanations de leurs vaches. Ils ont eu un problème avec les bouses de vaches il y a dans les années 60, les Australiens, parce que la vache n'existait pas en Australie. Et donc, quand les gens ont commencé à augmenter le cheptel de vaches en Australie dans les années 60 et que les bousiers Australiens ont vu les bouses de vaches tomber, ils savaient pas, les bousiers savaient pas quoi faire avec la bouse de vache parce que ils étaient habitués à rouler des crottes de kangourous. Et donc, il a fallu en Australie, la nuisance causée par les mouches était telle que les biologistes étaient obligés d'aller importer des bousiers d'Afrique pour régler la chose.
Les scarabées.
Ils sont allés chercher des œufs de bousiers d'Afrique et ils les ont incubés en Australie pour régler le problème des bouses de vaches en Australie.
Alors, oui, c'est un vrai problème. Hein. C'est vrai que ça peut être considérable, le problème des excréments.
Absolument, absolument. Parce que les vaches ne broutent pas vraiment dans des endroits où ils font des bouses qui ne disparaissent pas. Et on doit un grand merci au grand groupe des bousiers sans lesquels la planète au complet serait dans la merde, comme on dit. Excusez-moi pour le terme.
Alors,
on a le droit de le dire, le livre porte sur la merde, ok.
Dans votre essai sur les arbres, vous parliez aussi un petit peu de votre enfance. Et vous racontez encore une fois là que votre maman vous envoyait chercher des bouses de vaches dans la savane pour faire la cuisine.
Ah ben oui, tous les Africains qui écoutent, qui viennent du Sahel, savent que la bouse de vache séchée, c'est un combustible extraordinaire. Et donc, nous, quand on était jeunes, on allait ramasser la bouse de vache. Moi, je viens du Sénégal, je suis un serreur du centre du pays. de la région de Fatick. Et la bouse de vache séchée, on appelle ça umbel dans ma langue. Et le umbel, on ramassait ça et on l'utilisait comme combustible. Et puis donc, c'est en fait, je reste dans la continuité parce que
oui, c'est vrai.
Passer des arbres aux excréments, les excréments, c'est le fertilisant. Et la planète végétale a évolué en regardant les animaux. Parce que la vérité, c'est que une fraise, quand elle est mûre, elle est sucrée, n'est-ce pas?
Oui.
Mais elle est sucrée, quand elle n'est pas mûre, elle est légèrement toxique et on ne peut pas la manger. Pourquoi la fraise, elle synthétise du sucre quand elle est mûre, la fraise? C'est parce qu'elle sait, elle dit aux animaux, venez me manger, vous allez déféquer mes graines de l'autre côté pour que je puisse germer. Alors, les plantes se sont adaptées sur la planète bleue en étroite collaboration avec les animaux.
Oui, c'est vrai.
Et les biologistes ont un beau terme pour désigner ça. On appelle ça l'endozoochorie.
C'est ça.
C'est-à-dire la dispersion des graines, des végétaux à travers les excréments des animaux. Alors,
c'est vrai que les végétaux,
beaucoup ce thème-là aussi, oui.
Les végétaux encouragent les animaux à les manger. Et on a constaté du coup que certains végétaux se protègent de certaines espèces animales inutiles pour eux. Le piment, par exemple, qui contient de la capsaïcine, qui met le feu aux papilles en fait gustatives, en est un exemple. Voilà. Le piment ne souhaite pas être mangé par l'homme. Mais en revanche, les oiseaux, eux, sont insensibles à la capsaïcine.
Et voilà, les oiseaux étant insensibles à la capsaïcine, parce que les oiseaux disséminent, ils n'ont pas les récepteurs de la capsaïcine que nous avons.
Ouais.
Donc les oiseaux disséminent les graines de piment par leurs excréments. Si on pousse la réflexion plus loin, j'ai parlé du bousier, mais il y a un arbre africain qui s'appelle Ceratocarpium. Ceratocarpium, au cours de l'évolution, a développé des graines qui ressemblent à des boules de bouse de vache. Parce que vivant à côté des bousiers, l'évolution l'a poussé à développer cette stratégie pour que les bousiers confondent ces graines à des boules de bouse de vache et puissent les enterrer. Donc, il se fait germer gratuitement. Donc, ça, c'est de la coévolution.
Bon.
Permet aux plantes de faire ça. C'est fantastique.
Bon, Bokar Diouf, on va parler d'un café très rare. Si vous êtes amateur de café, c'est en Thaïlande. Le Black Ivory, produit grâce à des grains de café torréfiés par l'éléphant. Expliquez.
Mais voilà, c'est juste des éléphants souvent vieillissants. Mais le fait de faire manger les graines de café aux éléphants qui traversent leur tube digestif, apparemment, ça leur donne un petit goût de revenez-y. Alors, les gens doivent ramasser les graines de café qui ont transité par le tube digestif de l'éléphant.
Qui
et
sont
après,
intactes.
Ces graines sont torréfiées et ça coûte cher.
Et ça coûte cher parce qu'il faut 33 kilos de café, de graines de café pour en récupérer un seul kilo parce qu'on récupère ce qui est intact. Et donc, ça coûte 1 100 $ le kilo de café, soit environ $50 la tasse. Il y a une partie de votre livre, Bokar Diouf, le dernier chapitre qui est consacré aux excréments humains. Là, franchement, c'est un peu plus difficile à lire hein, sans avoir la nausée parce que...
Mais pourquoi, Emmanuel?
Bah, un petit peu quand même. Moi, j'ai eu un peu de mal. Mais peut-être parce que je l'ai lu d'une traite. Donc, à un moment, quand on arrive aux humains, là, c'est compliqué.
Mais écoute, ça fait partie de la vie, les excréments, n'est-ce pas?
Ah, mais attendez.
C'est une mine d'or.
Alors, la mine d'or, justement, parce qu'il y a un chercheur japonais qui a imaginé recycler les protéines contenues dans notre moufa, notre caca à nous, donc, pour en faire de la viande.
Oui, voilà, parce que le caca, c'est pas juste du jetable.
Ah bah,
Les protéines contenues là-dedans, c'est une expérience aussi inusitée. Vous tapez ça, sur l'internet, vous allez le trouver assez facilement.
Ouais.
Mais le hamburger en question, il coûtait trop cher. Alors,
le caca burger.
Je ne pense pas que c'est une voie d'avenir pour demain. Mais il y a plein d'expériences qui sont faites avec le caca humain. Il y en a qui essayent les bouts d'épuration. On pourrait parler des bouts d'épuration qu'on utilise pour faire des briques. En Angleterre, il y a des gens qui l'utilisent pour faire de l'électricité, de toutes sortes de choses.
Ben oui, parce
et je crois que c'est écologique de trouver des solutions alternatives à ce qu'on fait avec ça.
Et oui, parce qu'on en produit quand même 50 kilos par adulte et par an. Donc vous imaginez à l'échelle de la planète si on recyclait tout ça.
Il y a quelqu'un qui s'est évanoui ou quoi?
C'est ça, quasiment. Bon, merci beaucoup Bokar Diouf.
Merci Emmanuel.
C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Apprendre sur le tas la biologie des bouses est paru aux éditions La Presse. À bientôt Bokar.
Bienvenue toute seule. Respect toute seule. Je vis la nuit, tu vis le jour. Tu cherches l'amour, viens faire un tour. Si t'as besoin, trouve-moi dans le coin.
Avec l'offre, si tu tu veux les ennuis, viens avec Yann. Si tu cherches un mec pur, va avec d'autres. Si tu veux un mec dur, je suis un mec brave. Veux en savoir sur la nuit, j'ai des anecdotes. On n'a pas la même vie, mais on fume la même clope. C'est tout ce que je t'offre, c'est tout ce que je propose. Tu cherches autre chose, y'a qui pro. Maintenant c'est toi qui
C'était Ichon, artiste originaire de Montreuil et du Cameroun, avec Noir ou Blanc dans la librairie francophone. Et on termine cette émission avec le bonus créole, avec l'écrivain belge Charlie Delwart, qui vous fait découvrir une musique étonnante de La Réunion.
La librairie francophone, Emmanuel Kérad.
Le bonus créole de Charlie Delwart. Aujourd'hui, vous avez choisi un réunionnais, un musicien, grand musicien, Daniel Waro, Charlie.
Exactement. Dans une reprise de Brassens, de La Mauvaise Réputation. C'est un disque qu'ils ont fait sur Brassens avec des groupes de tous les pays. Et j'étais tombé sur cette version il y a assez longtemps. Et donc, du coup, quand j'ai essayé de chercher un titre, je suis tombé assez vite là-dessus parce que je trouve ça magnifique quand le travail de quelqu'un est porté à travers les cultures, à travers les langues, que ce soit en littérature, que ce soit en musique. Et là, il est bien porté. Et donc, je trouve ça très beau.
Daniel Waro, qui est un musicien adoré par Jean-Marie Gustave Le Clézio, par exemple. Les écrivains l'aiment beaucoup, c'est étonnant d'ailleurs, parce qu'il a ce phrasé musical finalement qui répond à votre littérature.
Et oui, mais il a aussi c'est-à-dire que moi je connais mal la langue créole, mais il semble l'incarner très bien.
Maloya, oui.
Donc c'est comme une sorte, c'est pour ça que dans cette version de Brassens, il y a une sorte d'image totale en fait. C'est vraiment Brassens plongé dans la culture créole pleinement.
On écoute Daniel Waro qui interprète Brassens. Merci Charlie Delwart.
Merci à vous.
Dans mon quartier, pas pour faire le fion, n'en a école si moi en couillon. Mon patate, mon savate, d'oiseau, tu prends moi pour un fatra. Où les siens, moi, mon mien, vase pas personne. Mi vend mon bazar, sous un cousin. Souvent de mon n'aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train au thé. Non, va de mon n'aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train au thé. Tout de mon y bat la langue là. Pas de bonne parle pas, je t'y gagne pas. Deux jours la fête, 14 il est mis, t'attendais si mon zoyer. Zotte musique en l'âme et la loi, à moi la parle avec ça. Si à moi mon mien vase pas personne, qu'un m'y accoute pas, z'autres clairons quand ils sonnent. Thomas de mon n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train au thé. Non, va de mon n'y aime pas pourquoi, oui, rentre pas dans ce train au thé. Veille pendant moi l'opé wani, pas que bonnes aveugles, quand même la dit.
Et c'était la dernière librairie francophone de l'été. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation et la production, Cyril Pascal, avec la contribution de Jean-Philippe Verret. À la technique, Rémi Sistiaga et Thierry Dupin à la prog musicale. On se retrouve samedi à 14h pour la rentrée de la librairie francophone classique qui fête ses 15 ans cette saison. Nous recevrons des auteurs qui font l'événement cette rentrée littéraire et nous préparons une grande séquence spéciale autour de Beyrouth et de l'avenir du Liban en solidarité avec les victimes du drame de cette explosion qui a dévasté la ville le 4 août dernier. Merci pour votre fidélité, pour tous vos messages. Je vous souhaite la meilleure rentrée possible et surtout, faites bien attention à vous. À bientôt, salut.